Europe 1.
On accueille Grégory et Sylvie maintenant sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Alors, vous nous appelez d'où, Grégory et Sylvie?
Alors, moi, je vous appelle du Gard.
Du Gard, d'accord.
Voilà. Et moi, je suis dans le Maine-et-Loire.
Vous êtes dans le Maine-et-Loire. Alors, qui commence? De quoi voulez-vous nous parler?
Écoutez, je vais commencer, Sylvie.
Oui, allez-y.
Alors voilà, moi je vous appelle. Alors déjà, j'aimerais dire merci à Florian, qui est quelqu'un de très gentil, voilà, qui nous a accueillis et tout, et qui a discuté avec nous. Et je lui remercie de cette opportunité que je puisse m'exprimer aujourd'hui sur votre antenne. Alors moi, je vous appelle aujourd'hui par rapport à ma fille, à la situation dans laquelle je me trouve, c'est-à-dire que ma fille, depuis 2016, est placée à l'aide sociale à l'enfance.
Oui. Quel âge a-t-elle?
Alors aujourd'hui, elle a 13 ans. Elle va faire 14 ans là, fin août. Et bon, la situation est pas facile. Elle a traversé une situation qui, par rapport à sa famille, que ce soit la mienne ou sa famille maternelle, on était dans un conflit maternel, un conflit parental, on va dire, et qui l'a emmené aujourd'hui à être dans cette situation-là et à être placée à l'aide sociale à l'enfance et dans une famille d'accueil. Voilà. Donc aujourd'hui, ma fille, je ne la vois pas.
Oui.
Je suis dans une situation qui est assez compliquée, voire même une situation, je dirais même carrément limite placement abusif, où on me reproche pas mal de choses alors que j'ai absolument rien à me reprocher. On est passé par des situations avec ma femme, parce que bon, moi j'ai refait ma vie, où on était accusé de tout. Aujourd'hui j'aimerais dénoncer la situation telle qu'elle est aujourd'hui, voilà, simplement.
Votre fille a été placée dans quelles circonstances, Cyril? Grégory, pardon.
Ouais, non, il n'y a pas...
Elle
a été placée... Ouais. C'est une histoire qui dure depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire que c'est monté crescendo au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire que ma fille était d'abord sous la garde de sa maman qui a perdu la garde parce qu'elle a eu d'énormes problèmes de santé.
Oui.
Ils m'ont confié la garde. Et les juges de l'époque, je dois dire, la juge de l'époque avait pris une décision, c'est de mettre en place deux mesures éducatives. Donc une chez moi et une chez la maman.
D'accord.
Voilà. Et ensuite, moi de mon côté, sans me vanter et sans faire de préférence, j'ai eu des gens quand même assez honnêtes. Parce que l'aide sociale à l'enfance, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas très honnêtes. Et il y a des gens aussi qui savent très bien faire leur travail, ça faut aussi le dire. Et ils ont tout fait pour que je puisse garder ma fille. Malheureusement, de l'autre côté, ils ont tout fait pour collaborer avec la famille maternelle qui ne voulait absolument pas déjà que j'ai la garde de ma fille, ou que même je voie ma fille, que je l'ai en garde, on va dire, en droit de visite et d'hébergement classique. Et ils ont tout fait pour me retirer la garde. Tout fait. Ils ont créé des problèmes, ils se sont initiés dans ma vie privée, ils ont créé des problèmes avec ma femme, j'ai eu pas mal de problèmes avec eux. En 2016, je me suis séparé de ma femme et c'est là que les problèmes ont commencé. Ils ont tout fait pour me retirer la garde de ma fille, pour la placer chez la maman alors qu'ils savaient pertinemment qu'elle ne pouvait pas s'en occuper à cause de ses problèmes de santé, et pour plus tard lui retirer la garde pour enfin la placer dans une famille d'accueil en 2018.
D'accord. Bon, donc en 2018 et depuis, vous ne l'avez plus jamais récupérée, votre fille?
Non, elle n'est plus venue à la maison.
D'accord.
Non, et depuis 2018...
Elle a quel âge aujourd'hui, vous m'avez dit?
13 ans.
13 ans. Comment vit-elle tout ça, elle, déjà? C'est important.
Vu qu'elle est quand même assez loin, parce qu'elle est placée dans un autre département que le mien... j'ai pas trop d'informations là-dessus. Pour eux, elle a l'air de le vivre bien. Au niveau scolaire, elle s'en sort très bien. Elle travaille très bien. Apparemment, d'après les nouvelles que j'en ai, elle s'entend plutôt bien avec la famille d'accueil.
Oui.
Donc, je peux pas vous dire si elle souffre, si elle souffre pas. Alors, d'un sens, je pense qu'elle souffre quand même parce que, j'ai quand même des bons retours me concernant. C'est-à-dire que souvent, on me dit qu'elle aime son papa. Elle aimerait que ça se passe bien avec moi. Des trucs comme ça. Donc, je pense que...
Qu'elle aimerait bien que ça se passe bien avec vous, c'est-à-dire
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de malentendus. avec ma fille, c'est-à-dire qu'elle grandit avec des théories et j'ai pas la possibilité de lui expliquer les choses telles que moi je pourrais lui dire.
Vous voulez bien m'en parler de ces théories, Grégory?
Ah bah bien sûr. Bah là, par exemple, là récemment, j'ai eu une audience en juillet de l'année dernière, par exemple, et ma fille a demandé à ce qu'on fasse une pause dans les relations parce que ça se passait pas bien. Avec elle, ça se passait pas vraiment comme elle le souhaitait. Enfin, ça, c'est les retours que j'en ai. Oui. Parce que malheureusement, je peux pas communiquer avec elle. Et c'est ça que j'ai envie de dénoncer aujourd'hui. C'est que on me fait savoir des choses au travers de messages ou je sais pas comment vous expliquer les choses. C'est que c'est leur propos à eux. Vous voyez, à l'aide sociale à l'enfance. Moi, ma fille, elle me parle pas de tout ça. Tout ce que je sais, c'est que ma fille, quand je la vois en visite, par exemple, c'est une qui aime bien prendre des photos, donc on fait des selfies bras dessus, bras dessous. Elle est tellement à l'aise avec moi qu'elle fait des grimaces aussi sur les photos. Mais pour eux, ça suffit pas. Vous voyez, pour l'aide sociale à l'enfant, ça suffit pas, ça ne justifie rien. Donc, à côté de ça, il y a des malentendus qui se mettent en place où elle croit peut-être que moi je suis en colère après elle, alors que c'est pas du tout après elle que je suis en colère, mais c'est plus par rapport à l'aide sociale à l'enfance. Donc voilà, c'est ce genre de théorie, dans ce genre de théorie qu'elle grandit, et j'ai pas la possibilité aujourd'hui de lui expliquer, et même en temps normal, même quand si j'ai des visites, malheureusement je peux pas lui expliquer les choses telles que moi je les vois aussi.
Le problème c'est qu'aujourd'hui la jeu vous demande vraiment beaucoup, beaucoup de choses, je suppose, pour la récupérer.
Non, il demande rien en fait.
Il demande rien.
Il ne demande rien. C'est-à-dire que l'objectif. Quand on lit, on va dire plus factuel, on lit le code de l'action sociale et des familles. Le monde, il est beau, quoi. Il est rose, il est beau. C'est-à-dire que on doit faire un travail en commun avec l'éducatrice, avec la référente, afin de renouer le lien, maintenir le lien, aller vers des élargissements de droits et d'un retour progressif de l'enfant au sein de son milieu familial. Sauf que moi, quand je discute avec la référente et avec ses dirigeants, c'est que il me demande d'aller au rythme de l'enfant. Sauf que l'enfant grandit dans des théories. Et aujourd'hui, l'enfant ne connaît ni les tenants, ni les aboutissants, parce que les choses ne sont pas expliquées, ne sont pas évaluées correctement.
Mmh. D'accord.
Voilà. Et du coup, on peut vivre comme ça pendant des années et attendre que l'enfant se décide, alors qu'il ne se décidera jamais, parce que ma fille a grandi justement dans certaines théories, quoi.
Et qu'est-ce que, Sylvie, j'aimerais bien vous entendre sur tout ça. Quel est votre regard sur toute cette histoire?
Alors moi déjà, j'interviens, si vous voulez, en tant qu'agent de médiation en formation service, donc diplômée, la seule en France, spécialisée dans le domaine de la protection de l'enfance et dans le domaine du médico-social.
Oui.
Donc moi j'accompagne les parents à tous les rendez-vous institutionnels, tels qu'ils soient. Donc ça peut être les rendez-vous dits éducatifs, donc en présence d'un référent. Ça peut être un rendez-vous dit psycho-éducatif en présence d'un référent et d'un psychologue. Ça peut être un rendez-vous dans les établissements scolaires, parce que c'est important de dire que les parents ont des droits. Mais oui, malheureusement, qui ne sont pas respectés. Vous voyez, le droit d'être présent pour être informé des apprentissages de l'enfant, enfin la scolarité. Parce que très souvent, les parents ne sont pas associés, ils ne sont même pas identifiés.
Qu'est-ce que vous en pensez de ça, vous? Parce que j'ai beaucoup de parents sur cette antenne qui m'appellent en me disant « ça fait des mois que je n'ai pas… » pas plus tard qu'hier soir, une maman dont son fils a été enlevé il y a maintenant depuis décembre, elle n'a pas vu depuis presque 5 mois son enfant, elle ne sait pas où il est. Comment vous regardez en tant que travailleuse sociale le fait qu'à un moment… Un enfant qui n'était absolument pas menacé par sa mère, qui n'était pas du tout en conflit avec sa mère, qui était même plutôt fusionnel. Comment vous expliquer qu'on enlève comme ça un enfant et qu'on le sépare complètement d'un ou des deux parents? Comment est-ce que vous regardez ça, vous?
Comme je vous ai dit, moi je ne suis pas travailleuse sociale, je suis agent de médiation en formation service.
Oui, pardon.
Donc c'est
un
nouveau métier, une nouvelle fonction, mais qui permet d'être présente dans toutes les situations de la protection, dans le domaine de la protection de l'enfance. Donc dès qu'il y a une mesure d'assistance éducative, telle qu'elle soit, donc c'est vrai que déjà au départ, il peut y avoir un regard assez particulier de la part des professionnels me concernant, sauf que les parents... qu'ils soient avec ou sans handicap, des parents autistes ou des parents tout à fait normaux, ont le droit d'être accompagnés. Donc par une personne de leur choix, et ça je tiens à le rappeler, même à votre antenne, voilà, que les parents n'hésitent pas à être accompagnés par même un professionnel, même par un avocat. Voilà, ça permettra d'avoir aussi un autre regard sur la situation, de faire des observations, des constats, moi-même de faire des écrits également.
Mais vous m'avez dit être la seule en France, donc ça veut dire que les parents
oui,
aujourd'hui...
Pour l'instant.
Bah oui, bah donc ça veut dire que ils ont les droits, des droits, mais vu que vous êtes la seule, par qui d'autre peuvent-ils être accompagnés?
Alors, vous pouvez être accompagné par un ami, un voisin, ça peut être un commissaire de justice. Alors c'est vrai que ça fait plus procédurier, mais ça permet d'avoir vraiment aussi un témoin. Alors moi, c'est vrai que j'interviens aussi, je peux faire de la médiation si besoin, faciliter le lien, le dialogue, la communication, parce que c'est mieux d'être dans l'échange, voilà, entre toutes les parties. Parce qu'on se rend compte qu'autrement, c'est très fermé, et c'est très froid, et le regard des professionnels à l'encontre des parents, alors pas tous, hein, je vais rejoindre Grégory, il y a des professionnels qui font très bien leur travail, qui ont de l'empathie, qui ont de l'humanité, mais vous en avez d'autres qui, malheureusement, en plus, ne sont pas diplômés, il n'y a pas de contrôle effectué, il n'y a pas de débat contradictoire, donc c'est la parole d'un parent contre les services.
Mmh, d'accord.
Mais les parents, oui, peuvent être accompagnés par une personne de leur choix. Mmh. Les textes sont très clairs. Alors, je ne suis pas avocate, je ne suis pas magistrate, mais en tout cas, cet article, donc le L223-1 du Code d'action sociale et des familles, voilà, vous pouvez être, en fin de compte, accompagné, mais vous pouvez être reçu en deux temps lors de la rencontre avec le professionnel de la protection
d'accord.
de l'enfance.
Mais une fois qu'on a dit ça, je vais vous dire, moi, dans le concret, tous les parents que j'ai sur cette libre antenne, mais se plaignent de ne pas être entendus, de ne pas être même respectés.
Exactement ça. Okay.
Donc, vous voyez, je veux dire, c'est très bien hein, que vous fassiez ça, Sylvie. Ouais. Mais moi, j'ai l'impression que c'est un peu le pot de fer contre le pot de terre, quoi. C'est une fois qu'on a enlevé un enfant, qu'on l'a placé, mais la parole des parents n'est, je vais vous dire, pas respectée. C'est-à-dire que un parent qui conteste, on va le sanctionner. Et comment
oui,
on sanctionne ?
Je sais bien. Moi, ça fait 10 ans que je suis sur le terrain. Donc, il y a la parole des enfants, déjà, qui n'est pas prise en considération.
Et qui sont les premiers intéressés, parole. Pourtant.
Voilà, parce que c'est l'enfant, il peut faire part de violences qu'il a subies par un des parents, quand il y a eu en plus aussi des violences conjugales, mais ça, ce n'est pas pris en compte. Les services vont plutôt dire « Ah non, mais nous, votre enfant, il nous a dit qu'en fin de compte, finalement, il ne voulait plus vous voir ou c'était l'autre parent qui était violent », alors qu'ils vont tout faire pour collaborer avec le parent violent et le parent qui était protecteur et bienveillant et aimant, lui, il va être vraiment déjà sur le banc des accusés.
D'accord.
Vous, et, ça, oui, c'est... et l'enfant, en fin de compte, la parole n'est pas prise en considération. L'enfant, il a le droit d'être accompagné aussi par un avocat, il a des droits. Et ça, c'est pareil, ce n'est pas déjà évoqué, proposé. Les parents ne sont pas informés de leurs droits, et les enfants non plus, les enfants et les ados. Mmh.
Mais j'ai l'impression que quand je vous écoute, Grégory, pardonnez-moi si je me trompe, mais je ne crois pas, j'ai comme la sensation que vous ressentez, vous, en tant que père, que depuis que votre fille a été placée, on a un peu travaillé contre vous et qu'on a un peu délabré votre image de père. C'est un mais peu c'est... comme ça que je l'ai ressenti.
Mais oui, c'est carrément ça. C'est-à-dire que quand on m'a retiré la garde de ma fille, bon, j'ai pas eu l'occasion d'en évoquer jusqu'à maintenant, mais c'est qu'il y a eu des plaintes qui ont été déposées contre ma femme pour des soi-disant faits de violence. Bien entendu, on a eu une enquête judiciaire qui a été ouverte. On a eu des tas de mesures éducatives qui se sont renouvelées. Il y a des tas de personnes qui sont venues à la maison, qui ont ouvert nos placards, qui ont ouvert les portes des chambres, qui ont vu ma femme avec ma fille, qui m'ont vu moi avec ma fille, avec nos autres enfants. Enfin voilà, il y a eu toutes sortes de démarches. On a eu des enquêtes sociales aussi. Quand on a fait le tour et puis que derrière, on continue à vous accuser, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est qu'il y a un problème quelque part.
Mmh.
Il y
a un problème quelque part, mais vous vous sentez comment? Vous sentez complètement impuissant devant l'ASE, visiblement.
On est impuissant. C'est un rouleau compresseur. C'est toute une organisation. Enfin voilà, on est impuissant. Et puis alors après, je vais répéter des phrases de Madame Moreau, c'est que on n'est pas tout seul quelque part. quand on se renseigne bien, quand on creuse, quand voilà, moi j'ai eu l'occasion d'avoir affaire à Madame Moreau, qui est la présidente d'une association. Elle est là pour nous soutenir aussi. Elle a sa fonction, mais elle est là pour aussi nous soutenir et pour nous donner aussi beaucoup de conseils. Et on n'est pas tout seul, en fait. Et c'est là qu'il ne faut pas lâcher, justement. C'est à ce moment-là qu'il ne faut pas lâcher.
Dans les semaines qui viennent, ou dans les mois qui viennent, comment ça peut se passer pour vous? Vous allez récupérer votre fille à un moment ou un autre, ou finalement, vous êtes en train de vous dire que vous ne la récupérerez jamais, qu'elle ira jusqu'à ses 18 ans placée?
Je pense que c'est bien parti pour, oui.
Et pourquoi? C'est bien parti pour. Pourquoi? Au nom de quoi? Au nom de quoi?
Vous
parce
savez,
que je crois savoir que tout ça part aussi d'accusations de votre ex-belle-mère qui vous accuse à un moment de rapport un peu tendu avec votre fille, et ça part de là, hein, l'histoire.
Alors, elle a été à l'origine de toute cette histoire,
oui.
Avec des plaintes comme ça, oui, elle a été à l'origine. Mais après, au lieu d'avoir l'ASE derrière qui fait un travail, en fait un travail tout simple. C'est-à-dire que, OK, il y a eu cette période d'enquête, d'accusation, de doute. Maintenant que tout ça a été balayé, passons à autre chose et il va falloir avancer.
Et est-ce que l'autre chose, Grégory, mes questions sont très claires et très directes, est-ce que l'ASE a travaillé à la reconstruction de la relation entre vous et votre enfant?
Non.
Voilà.
Je vais être clair avec vous, non.
Non,
parce que. Et plusieurs fois, je leur ai demandé. Et plusieurs fois, comme je vous l'ai dit, il y a ce code d'action sociale et des familles. Je leur ai parlé de ça. Je leur ai parlé de leur responsabilité aussi. Il y a un travail éducatif. Et le seul travail éducatif qu'on m'a proposé, c'est d'attendre. Attendre que ma fille se décide. Il faut que ma fille se décide. Il faut que, alors que ça serait beaucoup plus simple, de lui expliquer la situation, de communiquer avec elle, de rencontrer les gens aussi qui ont été mis en tort pendant une période, pendant une époque. Qui ont été mis en tort à ses yeux pour lui dire regarde, ça n'a rien à voir avec ce qu'on t'a raconté. Et surtout que là, maintenant, c'est une adolescente, donc c'est plus une petite fille, elle a un autre regard, et puis elle a mûri, elle a grandi. Donc là, ça sera quand même, ça pourrait être quand même un peu plus, on va dire, plus facile pour elle, en fait, de comprendre les choses.
Bon, tout ça, donc, vous êtes résigné aujourd'hui, Grégory?
Résigné, c'est ça que j'allais vous dire, parce que quand j'ai eu l'audience l'année dernière, ma fille, alors, bien entendu, ça ne tient qu'à moi, elle a écrit une lettre comme quoi elle n'était pas prête de revenir à la maison, elle ne voulait pas revenir chez moi parce qu'elle avait peur de revenir. Et c'est là que ça bloque. Quand vous lisez ça, et quand vous apprenez ça, vous dites, en fin de compte, on va la laisser comme ça, parce que elle est peut-être bien comme ça, en fin de compte, elle est peut-être bien dans cette famille d'accueil, et puis venir à la maison, c'est peut-être trop tôt. Enfin, je sais pas. Résigner, non, il y a toujours une part de moi qui me dit elle va revenir, faut avoir espoir, il faut la faire revenir, parce que il faut qu'elle ait aussi un papa, elle a des frères, des sœurs qui l'attendent ici,
oui.
Et malheureusement qu'elle ne connaît pas, en fait, parce que moi, comme je vous ai dit, j'ai refait ma vie, donc j'ai eu d'autres enfants. Mais elle les connaît pas, quoi. Elle les connaît qu'en photo et qu'en vidéo. C'est ça qui est le plus malheureux. Et le problème, c'est que c'est elle qui va le payer plus tard. C'est elle qui va se prendre le coup de bâton plus tard, parce que tout ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, pour moi, ça sert à rien, en fait. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
Je veux dire, demain, ma fille, je serai toujours son père. Elle sera majeure, elle aura 20 ans, 25 ans, je serai toujours son père. Que, eux, ils seront plus là. Donc
non.
Ce qu'ils sont en train de faire, ça ne sert strictement à rien, et c'est elle qui va en avoir les conséquences.
Un jour, elle viendra retaper
à la maison.
Oui.
Voilà, un jour, si elle le veut, bien entendu, elle viendra taper à la maison. Je ne vais pas lui dire de ne pas rentrer, bien sûr, je lui ouvre la porte et je dis rentre. Et c'est là qu'elle va voir ses frères et ses sœurs, et c'est là qu'elle va se dire en fin de compte, on m'a raconté n'importe quoi, on m'a raconté que des conneries. Et en fait, c'est pas des gens mauvais, quoi. On n'est pas mauvais, vous voyez ce que je veux dire?
Non, vous n'êtes pas mauvais, bien évidemment, vous n'êtes pas mauvais. Mais c'est pour ça que je vous demandais si l'ASE travaillait à la reconstruction des liens, parce que mon sentiment, en tout cas avec tous ces parents qui nous appellent sur cette antenne, c'est que justement il y a pas de travail à la reconstruction, et il y a plutôt, malheureusement, l'inverse. Et c'est ce qui me sidère, en fait. Et je vais vous dire, j'entends déjà des voix d'éducateurs ou d'éducatrices qui travaillent à l'ASE encore dire combien ils sont scandalisés par mes propos, sauf que ces propos, ils sont étayés aussi de témoignages de travailleurs sociaux qui travaillent à la protection de la petite enfance, à la protection judiciaire de la jeunesse, qui ne cessent de me dire que c'est tristement la réalité. Il y a une réalité qui est celle d'enfants en situation de danger réel. Et que l'ASE protège très bien, place avec des familles d'accueil très bien. Mais il y a aujourd'hui en France un très gros scandale autour des placements abusifs qui, lorsqu'il va éclater, va laisser apparaître presque des comportements irresponsables et pour ne pas dire mafieux en ce qui concerne certaines associations qui gèrent aussi le placement avec des centres d'intérêt commun pour des gens qui placent des enfants. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas aller le jour où on va lever le tapis et regarder tout ce qu'on a mis dessous depuis des années. Donc vous êtes Grégory, et merci Sylvie pour votre éclairage aussi ce soir, vous êtes encore une fois l'un des témoignages qui met en lumière le fait qu'on ne travaille pas à la reconstruction de la relation avec l'enfant. On travaille à, je sais pas, un enfant placé, ça coûte de l'argent, beaucoup d'argent à la société, et donc à vous toutes et vous tous qui nous écoutez. Ça vous coûte beaucoup d'argent, on paye tout cela avec nos impôts, et puis on a des institutions comme ça qui sont d'entrée contre les parents, d'emblée.
Mais c'est ça, mais c'est carrément ça. Ils sont, pas tous les parents, parce que voilà, moi je suis séparé de la mère de ma fille, ils s'entendent plutôt bien avec ma fille, avec la maman, alors qu'ils ont créé tout ce problème-là. Enfin voilà, c'est moi tout ce que je voulais, c'était élever ma fille dans de bonnes conditions. J'en demandais pas la garde spécialement parce que faut être honnête, je travaille, je peux pas m'en occuper. La maman ne travaillait pas à l'époque, elle pouvait s'en occuper. Donc moi je demandais pas la garde, mais d'avoir un week-end sur deux, la moitié des vacances, enfin tout ce que les papas pouvaient avoir aussi. Et dès le départ, ça a posé des problèmes. Ça a posé tellement de problèmes qu'il y a eu des dossiers qui ont été ouverts à l'aide sociale à l'enfance. J'ai été accusé pendant des années de violences sur ma fille. J'ai été même convoqué par les services sociaux pour répondre à des questions, mais qui n'avaient aucun sens, en fait. Ça n'avait aucun sens. Est-ce que vous frappez votre fille? Non, je frappe pas ma fille, moi, désolé. Enfin, voilà, que des trucs comme ça, que des trucs comme ça.
Allez-y, Sylvie.
Excusez-moi, je dis oui, vous ne pouvez pas avouer des faits que vous n'avez pas commis, en fin de compte, à l'encontre de votre enfant. Quand vous avez des services, c'est vrai qu'ils vous disent « Ah, votre enfant, en fin de compte, s'est rappelé dans des souvenirs dans le passé, pardon. » Il y a des fois, moi aussi, je suis obligée d'intervenir tellement c'est énorme, quoi. Alors que l'enfant, il va être placé même depuis des années. Et il n'y a jamais eu finalement de violence avérée. Les parents n'ont pas, il n'y a pas eu de condamnation. Voilà, tous les parents ne sont pas séparés ou divorcés. Mais c'est vrai que quand on voit, ce sont des récits montés de toutes pièces. Je pense qu'il n'y a pas d'autre terme. Et sauf que c'est très lourd de conséquences parce qu'en effet, comme Grégory, il peut être privé de son enfant, de sa fille pendant des années. Alors que derrière, il n'y a pas de débat contradictoire non plus. Il n'y a pas de contre-enquête. Et l'enfant ne peut pas s'exprimer comme il le souhaite. Sa parole, elle est manipulée, instrumentalisée, très souvent.
Oui, oui. Sa parole, son esprit, parce qu'on on a affaire à des enfants, là, dans le cadre de votre fille, d'une ado. Et on sait combien c'est facile de mettre une ado en opposition et en révolte, puisque c'est l'âge de la révolte, en plus. Donc,
s'il y avait des entretiens qui étaient faits, donc des entretiens dits éducatifs en présence du jeune, donc de l'enfant et de son parent ou de ses parents, avec un professionnel spécialisé justement dans le lien parent-enfant, eh bien là, je pense qu'on arriverait à d'autres situations. Il y aurait des évolutions des situations pour que l'enfant puisse retrouver étape par étape le domicile biologique, en fin de compte, enfin le domicile en tout cas de ses parents et sa famille.
Mais pour cela, il faudrait des gens comme vous, Sylvie, partout, dans tous les entretiens, qui travaillent à la reconstruction.
Ça viendra, on y travaille.
Oui, mais ça coûte, encore une fois, ça coûte de l'argent. Et donc, je ne sens pas une volonté énorme d'aller vers la création de postes obligatoires comme le vôtre pour chaque parent, dans l'accompagnement de chaque parent. Et c'est malheureusement ce qu'on ressent pour l'instant. Mais on vous écoute ce soir et on espère que ça changera. Merci en tout cas à tous les deux pour votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. N'hésitez pas, Grégory, à nous tenir au courant de la suite des événements. Et puis, bien évidemment, courage à vous. Bon, il va vous en falloir. Il va vous falloir vous armer de patience encore, de beaucoup de patience. Mmh. Et comme je le précisais à la maman d'hier soir, de beaucoup de calme et de sérénité pour ne pas sortir de ces gongs devant ces gens qui, dès que vous les contestez, vous en remettent une couche, hein, et vous en prenez encore pour des mois, voire des années.
C'est ça, ils en mettent une couche, et puis c'est même pas une couche, c'est qu'en fait ils nous punissent comme des enfants.
Ils vous punissent, exactement.
Voilà.
Courage à vous en tout cas. Courage à vous.
Merci beaucoup Olivier en tout cas.
Merci à vous.
Merci, au revoir.
Merci. Bonne soirée, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.